Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Élections générales au Nicaragua le 7 novembre prochain, à l'occasion desquelles Daniel Ortega entend se succéder à lui-même pour la quatrième fois, après avoir éliminé toute concurrence sérieuse en privant trois formations politiques de leur statut juridique et en faisant emprisonner sept candidats potentiels à la présidentielle et de nombreuses personnalités politiques, y compris d'anciens responsables de la révolution sandiniste. Des lois votées à la fin de 2020 permettent d'invalider n'importe quel opposant gênant sous les accusations d'être agent de l'étranger, traître à la patrie ou ennemi du peuple. Depuis plus de 3 ans, le pays est plongé dans une forte répression marquée par des assassinats, des emprisonnements, des disparitions, des exils forcés, le bâillonnement de la presse et l'interdiction d'exercer faite aux organisations non gouvernementales. Regard sur le Nicaragua, ce petit pays d'Amérique latine, 6,5 millions d'habitants, situé entre le Honduras et le Costa Rica, avec nos invités par téléphone, Gilles Bataillon, sociologue, spécialiste de l'Amérique centrale, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour.
Bonjour.
Également par téléphone depuis Madrid, Silvio Prado, sociologue à l'Université Complutense de Madrid et ancien fonctionnaire sandiniste. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, Julien Dufrier, doctorant en sociologie de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, Université Sorbonne Nouvelle. Bonjour.
Bonjour.
On va pour commencer planter le décor. À la présidence du Nicaragua, c'est un couple qui est aux manettes. Daniel Ortega, le président sortant, âgé de 76 ans, qui brigue, on l'a dit, un quatrième mandat consécutif. À ses côtés, son épouse et vice-présidente depuis 2016, Rosario Murillo, 70 ans. Daniel Ortega qui a, au fil des années, installé ce contre quoi il semblait avoir combattu toute sa vie, la dictature. Au début de sa carrière de combattant révolutionnaire, il s'agissait de la dictature Somoza. Gilles Bataillon, comment en est-on arrivé à ce que j'ai décrit en introduction ?
Ortega est revenu au pouvoir grâce à un concours de circonstances qui est le suivant. Il a fait un pacte avec un président libéral corrompu, qui était sous l'accusation de détournement de fonds extrêmement important, et lui était sous l'accusation de viol par sa belle-fille. Donc il y a eu un pacte entre les deux pour qu'il domine la vie politique du pays en empêchant tout autre parti de leur disputer le pouvoir. Donc ils se sont emparés de la Cour suprême électorale, enfin du tribunal suprême électoral, ils ont contrôlé la Cour suprême, et ils ont changé la loi électorale de telle façon que quelqu'un qui n'est pas la majorité au premier tour mais qui distance de peu ses principaux concurrents soit élu dès le premier tour. Et c'est comme ça qu'Ortega a été réélu une première fois en 2006 et ensuite a progressivement verrouillé toutes les institutions avec au début l'appui d'Arnoldo Alemán, le président libéral qui tenaient le parti libéral et qu'ils ont phagocyté les institutions d'abord pour leurs deux partis et ensuite Ortega s'est imposé contre Alemán.
Alors Silvio Prado, quelle réaction à ce que vient de décrire Gilles Bataillon, vous partagez ?
Complètement, je suis tout à fait d'accord avec M. Bataillon. Je pense qu'il a décrit d'une manière claire quels sont les points des changements qui a permis dans l'histoire politique récente l'installation d'une nouvelle dictature. Je souligne les facteurs clés du pacte avec la corruption, avec l'ex-président Arnaud Lema, parce que ça a permis à Ortega et ça a ouvert le chemin pour l'appropriation des institutions de l'État nicaraguayen.
Donc, si je vous ai bien compris, Gilles Bataillon et Silvio Prado, et je vais proposer à Julien Dufrier d'intervenir, c'est une façon pour Daniel Ortega de se protéger.
Absolument.
Gilles Bataillon.
Tout à fait.
Absolument. Ortega était face à des accusations pénales de sa belle-fille pour des viols répétés. Les accusations avaient été enterrées par une juge sandiniste qui avait en même temps condamné avec toute une série d'arguments parfaitement recevables Arnoldo Alemán pour corruption. Et cette jeune fille avait porté plainte devant la Cour interaméricaine de justice. Et donc sa mère a fait pression sur elle pour qu'elle retire sa plainte à la Cour interaméricaine de justice. Et donc Ortega, dès lors, a eu les mains libres. Et c'est comme ça que Rosario Murillo est rentrée en cour dans le jeu politique nicaraguayen, alors qu'avant, elle était un personnage de troisième rang.
Julien Dufrier.
Oui, tout à fait. C'est en fait un double pacte qui s'est fait en 1999 à travers ce qui a été nommé les accords de gouvernabilité, où effectivement ils se sont répartis tels deux caudillos les fonctions et les postes au sein des institutions principales de pouvoir qui sont le Conseil électoral et la Cour suprême de justice. Et donc du pacte Arnoldo Alemán Ortega, c'est aussi suivi d'un pacte Ortega Murillo, qui a consisté à lui octroyer un espace de pouvoir, d'abord au sein du parti sandiniste lui-même, puisqu'elle coordine quand même, elle est secrétaire générale du parti à Managua, et elle est la principale chef d'orchestre des organisations sandinistes qui sont principalement les conseils du pouvoir citoyen, donc qui sont des organisations placées à l'échelle territoriale des quartiers, mais aussi elle influe beaucoup sur le syndicat étudiant qui est l'Union nationale des étudiants nicaraguayens. Donc effectivement, elle a gravi dans une carrière politique au sein, et comme le disait Jean Bataillon, c'était une personnalité de troisième ordre dans le pouvoir sandiniste.
Et la jeune femme qui a mis en cause son beau-père, donc Daniel Ortega, puisqu'il s'agit d'une jeune fille née d'un premier mariage de Mme Murillo.
Oui.
Voilà, elle est en exil aujourd'hui. C'est le canard de la famille.
Alors c'est le canard de la famille, c'est-à-dire qu'elle a été effectivement exclue du clan Ortega Murillo, et elle est partie, si je ne fais pas d'erreur, elle vit aujourd'hui au Costa Rica, où d'après certains articles qui peuvent paraître, on voit qu'elle est parfois surveillée par des agents locaux du parti sandiniste et elle-même menacée. Ou surveiller.
Alors, pour comprendre un petit peu le mode de fonctionnement de ce couple, mais même on va élargir, c'est une famille, parce que le régime totalitaire qui prévaut aujourd'hui, Silvio Prado au Nicaragua, ça n'est pas sur le pouvoir d'un seul homme. On l'a compris, c'est le pouvoir d'un couple avec Madame Murillo. Mais au-delà de ça, c'est toute une famille. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, et il y en a un certain nombre, il y a 8 enfants du couple, et ils ont chacun le titre de conseiller présidentiel. Ils contrôlent l'un le secteur de la distribution de pétrole, et ils sont tous titulaires d'un contrat avec l'État. On peut parler d'un régime dynastique ?
Tout à fait. C'est une dynastie, mais je voudrais... Et revenir sur le cas de l'abus sexuel de Soy l'América. Parce que c'est justement si, avec Arnoldo Alemán Ortega, il a signé le pacte pour se protéger, pour gagner les élections, alors le pacte qu'il a signé avec sa femme, avec Rosario Murillo, ça a permis à Rosario Murillo de gagner le pouvoir qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent dans les fronts sandinistes. Alors, c'est la naissance, cet pacte entre Ortega et Murillo, c'est la date de naissance de cette nouvelle partie famille, de cette dynastie. Et je voulais souligner cette date, parce que c'est le moment du dernier changement du front sandiniste. D'un parti électoral à un parti famille.
Et on parle de 1999, c'est la date que donnait Julien Dufrier, ce pacte autour de...
Le pacte a été scellé en 1999, mais il est vraiment devenu effectif à partir de 2000.
Gilles Bataillon, un commentaire ?
Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et ce qui est très important, c'est effectivement de comprendre comment la famille, le ménage Ortega Murillo ressoudé sur le laminage de la fille de Rosario Murillo, Soy l'América, violée par son beau-père, va s'emparer des institutions et comment elle devient l'espèce de personne condamnée dans la famille. On fait faire bloc à toute la famille contre elle et il y a un pouvoir d'une famille qui s'installe et qui prend le pays en otage en considérant que c'est sa propriété personnelle et font des affaires exactement comme la famille Somoza avait fait des affaires. Et disons, et là on renoue avec une vieille tradition de prébande qui remonte au 19e siècle en Amérique latine, où ils n'inventent rien, ils reprennent un vieux modèle qu'ils modernisent.
Julien Dufrier.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est, effectivement, on a souvent tendance à souligner le caractère dépendant des sociétés centra-américaines, mais c'est bien dans ces marges qu'il faut voir comment ces acteurs arrivent à se jouer de situations de dépendance et à mettre à profit à leur propre compte ces situations. Et effectivement, le factionnalisme qui caractérise les partis politiques au Nicaragua et l'instrumentalisation d'une faction par une autre, c'est exactement ce qui a permis à ces deux caudillos, de nouveaux caudillos, de se repositionner dans le jeu politique. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui prévaut toujours aujourd'hui, où le FSLN est capable d'arbitrer à des conflits.
Le
Front Sandiniste est capable d'arbitrer à travers ses positions dans les institutions les éventuels conflits qu'il y a au sein d'autres partis. C'est ce qui s'est passé là avec le Parti libéral constitutionnaliste où c'est une faction de ce parti qui a réussi à retirer la personnalité juridique de Ciudadanos por la Libertad. Et effectivement, on renoue avec la distribution de prébendes et le factionnalisme qui est une tradition latino-américaine de la fin du 19e post-indépendance.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, je le disais en introduction, il y a des lois qui ont été votées à la fin 2020 qui permettent d'invalider n'importe quel opposant gênant sous les accusations d'être un agent de l'étranger, traître à la patrie ou ennemi du peuple. Question tout de même, on va parler de l'opposition, mais pourquoi Ortega en fait-il autant, voire plus que ce dont il aurait besoin pour se maintenir au pouvoir dans cette élection du 7 novembre prochain, dont on a bien compris quel était son suspense, Silvio Prado?
Vous savez, je pense que les prochaines élections n'auront aucune importance sur la vie politique nationale et sur les stabilités nationales, parce que ça va rien changer. Et cette élection a été prévue, comme tous les régimes autocratiques électoraux, était prévue comme une question plus formelle, c'est-à-dire comme une démarche de tout à fait formelle pour essayer d'être acceptée pour la communauté internationale. Et pourquoi pas le dire, pour se laver les visages et devant les assassinats et les abus que le gouvernement avait commis à partir de 2018. Mais ce n'est pas de transcendance, c'est pas important ça pour l'histoire politique, parce que les problèmes qui sont à la base de la crise politique du Nicaragua vont toujours être là. C'est le problème de la manque de démocratie, de la manque de liberté, de la manque de justice, des assassinats. Il n'y a aucun des agents de l'État qui sont été mis en prison. Alors, il y a 328 assassinats qui sont toujours dans l'impunité. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui sont en prison et il y a des milliers de compatriotes qui sont dans l'exil. Alors, ce sont des problèmes de fond qui ne vont pas résoudre les élections du 7 novembre.
Alors, il y a effectivement des centaines de prisonniers et plus de 100 000 exilés. J'aimerais, Gilles Bataillon, qu'on revienne. On va parler de la famille Chamorro, mais juste puisque Silvio Prado l'évoquait, répression accrue depuis 2018. Que s'est-il réellement passé en 2018? Est-ce qu'il y a eu tentative de renversement d'Ortega? On évoque une révolution de couleur, comme ce qui s'est passé en Ukraine, avec peut-être Washington qui serait derrière. Je ne sais pas. Que s'est-il passé en 2018?
Si vous voulez, l'idée de la révolution de couleur avec Washington derrière, ça, c'est la thèse d'Ortega. c'est-à-dire Ortega n'a jamais accepté, un, la défaite électorale de 90, et comme le disent très bien Henry Ruiz, un ancien de la direction nationale du Front, et Sergio Ramírez, si on avait su qu'on allait perdre, on aurait eu un plan B pour frauder les élections de 90. Donc, et pour Ortega, il ne comprend pas et il n'a jamais compris que c'est une réforme agraire où on voulait étatiser l'agriculture et on ne voulait pas redistribuer la terre aux paysans et leur donner du crédit pour faire fonctionner leurs exploitations agricoles, qui a jeté une partie de la paysannerie dans l'opposition, Contra qui est né de façon autonome et qui ensuite a été appuyé par les Américains. Donc pour lui, l'idée qu'il y ait une opposition sui generis qui se forme, ça ne peut être qu'un complot de l'étranger. Et donc, à quoi on a assisté en 2018 ? D'abord à un mouvement de protestation de la jeunesse contre une tentative de contrôle des réseaux sociaux, ensuite des protestations contre une politique inepte de lutte contre un incendie dans une réserve forestière dans la partie atlantique du pays, et ensuite un espèce de front commun contre une réforme fiscale et du système de retraite. Et disons, c'est quelque chose, c'est pas les révolutions soutenues par les États-Unis en Europe de l'Est, c'est bien plus quelque chose qui ressemble au printemps arabe, c'est-à-dire des gens qui tout d'un coup s'enflamment, protestent, et une étincelle de révolte contre un régime qui est jugé inique et insupportable, et où tout d'un coup tout déborde et les gens appellent à un mouvement civique d'ampleur et souhaitent des élections anticipées et pour redonner une légitimité à un futur gouvernement, considérant que celui qui est en place n'en a plus aucune. Alors... Et c'est vrai que là-dessus, les Américains ont été complètement à la remorque et que depuis, disons, la chute des sandinistes en 90, les États-Unis n'ont plus d'intérêt pour l'Amérique centrale. Les choses qui sont prioritaires pour eux dans leur agenda politique avec l'Amérique latine, c'est la question des migrants et la question de la drogue, ou la question de la drogue et la question des migrants. Mais que la question, disons, d'un affrontement Est-Ouest en Amérique latine, ce n'était plus à l'ordre du jour pour eux.
Alors, on reviendra, il nous reste 2 minutes avant la fin de cette première partie d'émission. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait que l'on approfondisse. Mais peut-être avec vous, Julien Dufrier, retour sur 2018. Alors, oui. Gilles Bataillon parlait de régime insupportable. On peut rappeler et souligner que l'ONU et l'Organisation des États américains s'accordent à dire que le gouvernement Ortega a commis des crimes contre l'humanité. Les mouvements et les protestations de 2018 ont généré une très forte répression qui a fait plus de 300 morts, mais des centaines de prisonniers et plus de 100 000 exilés.
Tout à fait. Là, c'est une situation, j'allais dire, qui renoue aussi avec les conflits politiques antérieurs qui ont vu des vagues d'incarcération et bien sûr un exil politique vers les pays généralement voisins, principale destination étant le Costa Rica. Mais pour revenir sur les événements d'avril en eux-mêmes, il y a bien sûr eu une conjonction de facteurs antérieurs qui ont entraîné les premières protestations, notamment la réforme de la sécurité sociale qui prévoyait l'augmentation des cotisations salariales à la fois patronales et pour les employés, mais également une amputation sur les pensions de retraite des personnes, des seniors donc pensionnés. Et en fait, par un renversement métonymique, on a tendance à prendre, j'allais dire, cette conjonction comme le facteur déclencheur. Le facteur déclencheur de la protestation, réellement, ça a été la répression qui a été faite à ces premières manifestations totalement pacifiques qui ont été tout de suite réprimées par l'envoi de membres de la jeunesse sandiniste. Et puis ensuite, par effet, la crise elle-même a eu sa propre dynamique et par entraînement et vagues successives de répression, effectivement, il y a eu une sorte d'agglutination des mécontentements jusqu'à donner les occupations des universités par les étudiants, la protection de ces mêmes universités par les quartiers alentours, et aussi une protestation qui s'est propagée à la quasi-totalité du territoire nicaraguayen.
On vous retrouve, Julien Dufrier, avec Silvio Prado, qui est avec nous par téléphone depuis Madrid, et Gilles Bataillon, après le journal, à tout de suite.
Priorité santé. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Nous poursuivons notre regard sur les élections générales au Nicaragua le 7 novembre prochain. Le Nicaragua, pays d'Amérique latine de 6,5 millions d'habitants situé entre le Honduras et le Costa Rica. Nous retrouvons nos invités par téléphone, Gilles Bataillon, sociologue, spécialiste de l'Amérique centrale, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Également par téléphone, Silvio Prado, sociologue à l'Université Complutense de Madrid et ancien fonctionnaire sandiniste. Et en studio, Julien Dufrier, doctorant en sociologie de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, Université Sorbonne Nouvelle. Nous avons largement parlé dans la première partie de l'émission des raisons pour lesquelles le couple Ortega-Murillo était prêt à tout pour rester aux commandes. Et l'élection du 7 novembre prochain est une élection sans vraiment de suspense. J'aimerais que l'on comprenne un petit peu ce qu'il en est de l'opposition. On a parlé de la répression qui prévaut depuis, particulièrement depuis 2018, avec des emprisonnements, des Nicaraguayens qui ont été contraints à l'exil. L'opposition aujourd'hui, c'est qui ? C'est quoi ? C'est une famille, la famille Chamorro, dont on peut noter que Cristiana Chamorro, la fille de l'ancienne présidente et de Pedro Joaquín Chamorro, assassinée par la dictature Somoza quelques mois avant le triomphe de la révolution sandiniste, a été assignée à résidence en juin dernier et déclarée inapte à se présenter à l'élection. Il y a aussi son frère, Pedro Joaquín Chamorro, qui a également été arrêté en juin. Et un autre frère poussé à l'exil. Gilles Bataillon, qu'en est-il de l'opposition aujourd'hui au Nicaragua ? Et on parlera peut-être avec Silvio Prado de l'opposition des anciens combattants sandinistes, peut-être de Daniel Ortega. Gilles Bataillon.
L'opposition, c'est un spectre beaucoup plus large que celui que vous dessinez là, parce que si effectivement il y a une famille qui a joué un rôle important dans la vie politique nicaraguayenne depuis le début du XXe siècle, c'est bien évidemment pour une part la famille Chamorro, mais cette famille Chamorro, elle ne doit pas cacher, à partir de la révolution sandiniste, d'abord avant le rôle du parti conservateur dont était membre Pedro Joaquín Chamorro, le journaliste assassiné juste au début de la révolution et dont l'assassinat d'ailleurs permet une coalition des forces contre Somoza. Mais ensuite, si vous voulez, vous avez un parti libéral divisé en multiples factions, vous avez des conservateurs, vous avez des socio-chrétiens et vous avez les sandinistes dissidents qu'on a appelés les rénovateurs et qui ont maintenant choisi un nom de parti démocrate. Et si vous voulez, c'est toute une myriade de partis et c'est ensuite des mouvements sociaux extrêmement importants. C'est les mouvements des femmes et c'est le mouvement paysan contre le canal. Et c'est ensuite l'Église qui apparaît comme toujours aux yeux des Nicaraguayens et même de certaines féministes, qui peut sembler paradoxal, comme la plus haute autorité morale contre le régime. Et disons, c'est bien sûr qu'il y a des gens de la famille Chamorro qui jouent des rôles éminents et qui sont capables de coaliser des gens autour d'eux, en particulier Juan Sebastián Chamorro, qui est celui qui recueillerait le plus d'intentions de vote s'il y avait des élections démocratiques aujourd'hui, mais c'est sa cousine Cristiana Chamorro. Oui. Mais vous avez ensuite un certain nombre d'autres gens qui viennent de d'autres milieux et qui ne sont pas des gens des grandes familles, qui représentent une opposition extrêmement importante. Et disons, c'est un spectre extrêmement large. Et aujourd'hui, on considère que les intentions de vote pour le FSLN sont de moins de 10%. Jamais le front n'est tombé aussi bas en popularité.
Moins de 10% pour le FSLN. Silvio Prado, les anciens compagnons de Daniel Ortega, les anciens sandinistes, ou comme les appelle à l'instant Gilles Bataillon, les sandinistes dissidents, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette force d'opposition au Nicaragua aujourd'hui ?
Je pense que les anciens copains du Front Sandiniste, beaucoup d'entre eux qui sont en prison, n'ont pas eu jamais la possibilité de créer une force politique alternative au Front Sandiniste, parce que le Front Sandiniste même, il a empêché que ça se stabilise une force politique, un parti politique autour du mouvement de renouvellement du sandinisme. Alors, les anciens copains du Front Sandiniste se sont regroupés autour de deux courants. La courant qui représentait Sergio Ramírez et Dora María Téllez, et l'autre tendance qui était formée autour de Mónica Baltodano, une autre ex-commandante guerrillera. ces deux tendances, ces deux courants n'ont jamais pu se consolider comme une alternative politique. Mmh. Parce que tous les efforts ont été sabotés pour le Front sandiniste, mmh. qui n'a jamais été intéressé à qu'il s'établisse une force alternative à la gauche du Front sandiniste. Alors c'est ça que je peux dire. Mais je voulais revenir sur la question de la famille Chamorro. C'est faux cette idée de croire que la famille Chamorro, c'est l'épaule opposée à la famille Ortega. C'est complètement faux. La famille Chamorro, jusqu'en 2020, n'avait pas une tête qui aspirait à se présenter aux élections présidentielles. Si est-ce qu'on peut parler d'une espèce de leadership de la famille Chamorro, c'est plutôt un leadership plus moral, qui ne s'exprime pas à une force politique. Alors, on ne peut pas parler d'une dynastie Chamorro opposée à la dynastie de Ortega. Je pense que c'est une obsession de Rosario Murillo contre la famille Chamorro. Ce n'est pas une opposition politique. Ce n'est pas que la famille Chamorro représente un pôle d'opposition politique. Mm. Comme M. Bataillon disait, il y a d'autres questions des leaders politiques qui sont en prison maintenant. Mm.
Alors, effectivement, le couple Ortega-Murillo, un couple finalement très obsessionnel, Julien Dufrier, avec Madame Murillo qui, voilà, focalise sur la famille Chamorro, et Daniel Ortega qui polarise sur les États-Unis.
Oui.
Pour simplifier beaucoup. Mais
Oui, c'est une vision schématique, mais ce qu'on peut dire sur l'opposition, il y avait un historien qui s'appelle Knut Walter qui avait pour habitude dans ses travaux de distinguer l'opposition loyale de l'opposition déloyale. L'opposition loyale, c'est celle qui joue le jeu du système partisan, c'est-à-dire la répartition de prébendes. C'était son analyse sur la dynastie somociste. Et l'opposition déloyale, c'est celle qui effectivement s'émancipait et vivait au-dessus de la vie partisane. Ce qui s'est passé en 2018 lors de la convocation du dialogue national qui était censé mettre tout le monde autour d'une table et de sortir quelque chose de consensuel de la crise a en fait été réalisé sans aucun parti politique. Ça s'est joué au-dessus des partis et de ces figures présentes au dialogue national ont émergé des potentiels candidats. La vague de répression qu'il y a eu en fait contre les opposants s'est jouée en fait avec le calendrier électoral puisque début juin il fallait déposer la liste des candidatures et l'opposition qui s'est en marge du système partisan, mais qui était quand même derrière, puisqu'ils avaient besoin d'un véhicule électoral pour se présenter, qui était soit le parti Seporele ou le parti de restauration démocratique évangéliste, ont essayé de s'arrimer au système partisan, mais n'ont jamais réussi à faire émerger une candidature unique à travers, il y a eu des commissions de bonne volonté, des commissions de liens entre tous ces secteurs, sans jamais réussir à faire émerger une candidature unique capable de concurrencer Ortega. Là-dessus, il y a eu l'immixtion de Cristiana Chamorro qui s'est mise dans le jeu en potentielle candidate et probablement celle qui était la plus menaçante avec Juan Sebastián Chamorro. Mais effectivement, le spectre de l'opposition est très large. Par exemple, un des opposants qui a été incarcéré, c'est Arturo Cruz Sequeira, qui lui n'est pas du tout inconnu dans la vie politique nicaraguayenne. D'abord parce que son père avait été d'abord un sandiniste, puis ensuite était passé à la Contra et avait failli même être candidat contre Ortega en 1984. Donc toute cette vie politique se fait quand même dans un entre-soi, qui effectivement sont des gens, et de l'émergence de leadership, il y a eu peut-être deux ou trois figures qui sont apparues effectivement sur le devant de la scène, mais qui n'ont jamais été totalement déconnectées du système politique. Si on revient par exemple sur un Félix Maradiaga ou sur un Juan Sebastián Chamorro, tous deux avaient été des fonctionnaires de l'administration allemande, si je ne fais pas d'erreur, l'un comme vice-ministre de l'économie et l'autre comme vice-ministre de la défense. Mmh. Donc ce ne sont pas des personnages de toute cette potentialité du mouvement social qui avait fait émerger un certain nombre de leaders, surtout parmi le secteur étudiantin. Finalement, il ne reste pas beaucoup de figures et on est retourné à une vision plus traditionnelle de la politique au Nicaragua. Mmh.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, on va élargir, ou alors j'ai senti que Silvio Prado, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Julien Dufrier, où on part un petit peu sur les aspects géopolitiques et voir quels sont les modes d'action éventuels de la communauté internationale. Silvio Prado, où on avance sur le dossier?
Alors, ça me fait rire vraiment. Ça me fait rire quand on parle d'un essai de coup d'État au Nicaragua en 2018. Et plus, ça me fait rire plus encore que cette coup d'État a été financé pour les États-Unis. S'il y avait un gouvernement en Afrique centrale qui était proche, qui était allié au gouvernement des États-Unis, c'était le gouvernement d'Ortega. Parce qu'il était il représentait les gendarmes plus importants contre les narcotrafics et contre la migration illégale. Alors, ça m'est vraiment. Et je pense que les États-Unis ils ne seront pas contre la possibilité d'une continuité du gouvernement Ortega qui puisse garantir cette bouchon contre ce problème qui affecte la frontière sud des États-Unis.
Alors, j'ai compris que c'était thèse aussi de... Pardon, je vous interromps. La liaison n'est pas très bonne, Silvio Prado, donc on ne peut pas vous garder trop longtemps. Mais j'ai bien compris, donc je vais rebondir sur ce que vous venez de dire en me tournant vers Gilles Bataillon. Gilles Bataillon, c'est aussi votre discours à vous, de dire que finalement, Ortega, les États-Unis sont bien contents de l'avoir, comme le disait à l'instant Silvio Prado, gendarme contre le narcotrafic et contre l'immigration illégale. Alors, sur cette base, comment comprendre les mesures prises en juin dernier par les États-Unis contre certains proches d'Ortega et des hauts responsables de son gouvernement, Madame Murillo en tête, et d'autres avec elle sont aujourd'hui interdits de comptes bancaires et de transactions financières sur le sol américain, sanctions également de l'Union européenne. Donc il y a finalement double langage, Gilles Bataillon.
Il y a eu double langage et il y a eu un changement d'orientation, c'est-à-dire que à l'époque d'Obama, qui a été le moment, et un petit peu avant déjà, de grande expansion du narcotrafic et du passage de la cocaïne qui vient de la zone andine vers les États-Unis, enfin vers le Mexique et les États-Unis. Les États-Unis ont considéré que Ortega, qui négociait avec les narcotrafiquants mais tenait son pays, était un danger moindre que ce qu'ils voyaient poindre dans un pays comme le Honduras ou le Guatemala, où les gangs de narcotrafiquants ont complètement infiltré la politique. Et disons, ils voyaient là un système, disons, mexicain à l'ancienne, dans les années 70, où il y avait de la contrebande qui était régulée par l'État mexicain. Ils se sont dit, c'est un moindre mal. Et disons, là, devant le soulèvement civique, il y a quelqu'un qui fait, dans un espèce d'anticommunisme obsessionnel, c'est un personnage épouvantable, mais on ne peut pas lui enlever ça. Ça a été l'ancien président des États-Unis qui a lancé un certain nombre, qui a poussé la Chambre, et il y avait un certain nombre de gens chez les démocrates et chez les républicains qui avaient Ortega dans leur viseur et qui ont lancé un certain nombre de lois permettant de poursuivre des gens impliqués dans des trafics du recel et du blanchiment d'argent sale. Et c'est avec ça qu'ils ont attaqué Ortega et ils ont aussi utilisé des lois permettant de poursuivre des gens impliqués dans des crimes contre les droits de l'homme. Mmh. Et donc c'est ça, et là il y a eu un revirement politique des Américains et qui ont compris que ce qui pouvait frapper Ortega et le faire plier, c'était pas des mesures générales contre le pays qui affectent avant tout la population la plus pauvre, c'est-à-dire pas Ortega et ses proches, mais des mesures sélectives contre les biens du dictateur et de ses proches. Et là, il y a effectivement un renouveau de la politique américaine, et c'est une politique qui a été suivie par un certain nombre de gens en Europe, et disons, les deux groupes politiques au Parlement européen qui ont été très vigilants là-dessus, c'est pour une partie des gens d'extrême droite, il ne faut pas le cacher, mais aussi des gens venant de la mouvance écologiste. Alors, pour une partie des sociodémocrates espagnols.
Finalement, donc, on a bien compris qu'il s'agissait pour les États-Unis et l'Union européenne peut-être de s'attaquer plus directement à des personnalités de l'entourage d'Ortega davantage que des mesures qui contraindraient la population qui, au demeurant, a déjà beaucoup souffert de la pandémie. La Banque mondiale prévoit une croissance négative de moins 2,5% en 2021, ce qui signifie par ailleurs un arrêt des progrès dans la lutte contre la pauvreté qui était, somme toute, réalisée, je parle sous votre contrôle, réalisée depuis 2005. En tout cas, finalement, donc Gilles Bataillon, à vous entendre, la loi américaine qui prévoyait également le blocage des prêts internationaux accordés au Nicaragua et la révision de sa participation à l'accord de libre-échange entre les États-Unis, la République dominicaine et l'Amérique centrale, finalement tout cela est provisoirement gelé.
Pour le moment, c'est gelé, on ne sait pas ce qui va se passer. Je pense que, si vous voulez, les Américains comme les Européens attendent de voir ce qui va se passer. Oui. Enfin, l'ampleur de la fraude électorale demain et comment les choses vont se passer après.
Demain, donc le 7 novembre.
C'est pour le moment le gouvernement Ortega qui a l'initiative et ça sera à la communauté internationale de répondre aux derniers agissements du gouvernement Ortega.
Julien Dufrier.
Oui, pour réagir à cela, ce qui est intéressant effectivement dans le positionnement des États-Unis, ce sont toutes ces mesures législatives qui ont été prises, donc le NICA Act en 2018 et la loi qui est toujours dans le processus washingtonien qui passe dans les deux chambres et qui est la loi Renacer, donc qui est en fait des lois qui conditionnent certains prêts à la restitution des droits civils et politiques. Bon, un autre aspect qui me semble intéressant aussi, c'est comment cette crise politique au Nicaragua a aussi fait bouger certaines lignes au niveau de la diplomatie latino-américaine. C'est-à-dire que, par exemple, pour un État mexicain qui fonctionne à la doctrine Estrada, qui a été implantée dans les années 1930 et qui, en fait, consiste à ne pas faire ingérence ni interférer dans les processus nationaux et de reconnaître les gouvernements de facto qui sont élus frauduleusement ou non, on voit que, par exemple, López Obrador est...
Le Mexicain
est mis à défaut et qu'il y a des sérieux passes d'armes entre la diplomatie nicaraguayenne et la diplomatie mexicaine à ce sujet. Et on voit ressurgir certains poncifs du discours anti-impérialiste à l'encontre de l'État mexicain, les affublant de l'achaïsme, qui est en fait la position de dominée par les États-Unis de pays, la position impérialiste, la soumission à l'impérialisme. Et effectivement, on sent que les rapports se tendent et que des lignes sont en train de bouger. Même Macri, sous le gouvernement Macri en Argentine, qui avait été aussi à l'instar d'un certain nombre de résolutions à l'OEA pour condamner le régime, aujourd'hui, même Manuel Fernandez est obligé aussi, qui était d'abord, dans une première partie de son mandat, revenu sur les positions très strictes de l'Argentine, est obligé aujourd'hui aussi de faire marche arrière et de condamner la situation, la répression, l'incarcération des opposants politiques, et donc de revenir dans une ligne beaucoup plus accusatrice de ce qui se passe. Donc ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment toute la diplomatie américaine, latino-américaine et des pays qui ont une certaine influence dans ces instances vont réagir après la victoire assurée de Daniel Ortega
le 7 novembre. Alors, on n'en a pas parlé, on n'a pas le temps maintenant, mais Daniel Ortega a aussi le soutien de Vladimir Poutine et la Chine qui figure en deuxième position. La Chine, puisque vous en parliez, Gilles Bataillon, qui n'a pas complètement renoncé au canal interocéanique au Nicaragua, aujourd'hui en suspens. Très rapidement, en 10 secondes, Gilles Bataillon, la question qui se pose, c'est que va faire Washington ?
Washington va probablement accentuer les sanctions contre le Nicaragua, mais les Chinois sont prêts à prendre la relève du marché américain pour toute une série de productions nicaraguayennes.
Merci Gilles Bataillon. Je rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste de l'Amérique centrale, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci aussi à Silvio Prado, dont la liaison, et on en est désolé, n'était pas excellente. C'est un peu un euphémisme. Mais Silvio Prado qui intervenait depuis Madrid, qui est sociologue à l'Université Complutense de Madrid et ancien fonctionnaire. Et Julien Dufrier, doctorant en sociologie de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Université Sorbonne Nouvelle. On n'a pas souvent l'occasion de parler du Nicaragua. C'en était une aujourd'hui. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Samedi prochain, c'est Chantal Leroux que vous retrouverez. À très bientôt.